Vous écoutez
RMC. RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein.
Mais j'espère que la retour va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, les malheurs des autres font les bonheurs des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot Thomas Desson.
Bonsoir à tous, c'est l'after. Ils sont en train de parler de gros sous. Il y a 11 ans exactement, sa valeur marchande était de 450 000 euros à Kevin Diaz. Mais il est inestimable pour l'after. Bonsoir à vous, Kevin.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Daniel.
Alors, si vous nous écoutez, évidemment, bah, vous allez reconnaître sa voix. Si vous nous regardez, et il vient de rentrer de vacances. Tu vas bien, Daniel?
Salut, les amis.
Ça va. Très, très bien. Fallait me dire que c'était bleu foncé. Moi, j'ai mis bleu clair.
T'as coûté 400 000 balles à un moment, toi?
Non, j'ai ma valeur.
Sa valeur marchande, après du CSV.
Attends, on va pas commencer là-dessus parce que ça fait plusieurs semaines. Alors, toi, t'étais en vacances, mais je me bats avec cette idée reçue que les joueurs valent pas forcément le prix qu'ils sont achetés.
Ça,
mais on n'arrête pas de me répéter.
C'est vrai, mais ça me fait plaisir que t'évalues ce prix-là. Parce que c'est quand même.
Un demi-million, c'est pas mal, hein?
Bah, ouais, bah, t'as vu le pied gauche quand même au match de l'after?
Surtout que je l'ai eu dans mon équipe, je l'ai fait briller. J'ai jamais dirigé.
Ah, ça continue, c'est un fil rouge parce qu'on aura Julien Laurence tout à l'heure. Il a été très bon en numéro 10.
Julien Laurence, faudra le féliciter pour son match de l'after. J'ai pas encore eu l'occasion, mais.
Eh ben justement, voilà le sommaire. Décrescendo, on finira avec un mercato show en ce dimanche 4 août. On est ensemble jusqu'à minuit. On parlera évidemment de ce Community Shield. City s'est accroché à son Community Shield. Jürgen Klopp dit ça m'est égal. Bah, lui, Pep, à la fin, il les compte hein, pour dire j'ai fait quadruplé, quintuplé, sextuplé. Je vais y arriver. Et tout de suite, on parle de ce match amical, le dernier pour Marseille face à Naples. Victoire 1-0. Alors un but, messieurs, de Dries Mertens à la 38e minute. On a débuté sans attaquant. Kevin, on a vu un Steve Mandanda, CrossFit Mandanda. D'abord, il va avoir le brassard jusqu'à la fin de l'année. C'est la garantie d'André Villas-Boas. Ensuite, on n'avait pas de numéro 9. Pour autant, même si Valère Germain n'était pas là, on ne se dit pas que ce sera la saison galère Germain pour eux. Parce que, allez, Benedetto va arriver. Il peut se passer quand même quelque chose après ses 13 défaites en championnat l'an dernier.
Moi, je pense que ce match entre l'OM, alors on en a déjà pas mal parlé, mais entre l'OM et Naples, ça peut un peu refléter quel pourrait être l'avenir proche de l'OM. Parce qu'on a parlé à un moment du projet Dortmund. On a parlé du projet Champions Project. Moi, je pense qu'il devrait faire un projet Napoli Project. Parce que ces deux clubs, je trouve qu'ils se ressemblent. Deux clubs de ville, une ville du sud de l'Italie, une ville du sud de la France, des clubs populaires. Ils ont même presque les mêmes couleurs.
Hein, ça vaut quelque chose de dire le caractère sulfureux.
Mais on si, est un peu les mêmes. Si, mais si, ça se ressemble. Bien sûr qu'il y a, c'est des clubs qui, pour moi, en tout cas, ont une ADN qui est comparable. On peut dire que c'est des cousins, même si apparemment les supporters s'aiment pas trop.
Ça va t'apporter quoi, là, cette comparaison?
Non, mais je veux dire que justement, la façon de travailler qu'a eu le Napoli depuis 10 ans maintenant, qui a connu aussi une période difficile avec, en recrutant des joueurs.
T'as pas besoin de prendre une ville qui soi-disant ressemble, parce qu'au fond elle ressemble pas vraiment. Tu peux prendre n'importe quel club qui a bien travaillé sur les 10 dernières années.
Non, mais là en l'occurrence c'était pas raison.
C'était ce qu'on disait dans le match, c'était
pas une comparaison, Daniel, avec le match d'aujourd'hui. Voilà,
mais le match
la différence entre les deux clubs.
Non, mais
et on l'avait vu déjà lors de la dernière phase de poule où Marseille avait participé en 2013, entre la différence déjà grandissante entre Naples et Marseille. Ouais. Je disais, tu vois, des joueurs comme, on en parlait hors antenne, mais des joueurs comme Dries Mertens qui sont pris au PSV Eindhoven en Eredivisie, Amin Nunes aussi à l'Ajax en Eredivisie, pareil pour Arek Milic pris à l'Ajax. Là aujourd'hui, il y a un joueur comme Hakim Ziyech.
L'histoire de la politique des clubs, tu vas pas la refaire. On sait très bien qu'on a beaucoup de retard.
Ils doivent s'en inspirer pour moi.
On a beaucoup de retard là-dessus. Ils peuvent s'inspirer de Naples comme de plein d'autres équipes.
Ouais.
Aujourd'hui, on va parler au présent. Est-ce que tu dois, parce que le match, le contexte est un peu particulier parce que c'est pour l'anniversaire du club, donc tu prends Naples, tu fais faire le coup d'envoi par Bogossian qui a joué dans les deux clubs.
Ouais.
Mais au fond, est-ce que à une semaine du championnat,
c'était Bogossian, j'ai cru que c'était un joueur de golf, moi, qui avait donné le coup d'envoi.
Ça l'est aussi. Est-ce que tu dois jouer un adversaire aussi dur et qu'est-ce que ça t'apporte en termes d'enseignement? Je sais pas. Dorénavant, les matchs de préparation sont filmés. Il y a 50 000 personnes dans un stade. C'est en direct à la télé. Bon. Ces dernières années, ça devient comme ça. Il y a 10, 20 ans, c'était pas ça, les matchs de préparation. C'est mieux de les faire dans, soit à la limite, des tournois, tu sais, où t'as 3-4 équipes, ou alors des adversaires très faibles à qui tu molles des raclés, ça te permet d'être en confiance. Là, une semaine de la reprise, jouer contre Naples, je suis pas sûr que c'est un grand intérêt pour Marseille. Si tu veux faire que de l'analyse de ce match-là de ce soir, il y a rien de positif. Mais à l'arrivée, quand tu diras, il y a rien de positif, parce que moi, ça peut m'amuser pendant une demi-heure de dire à quel point l'OM s'est fait manger tout long. Je termine la fois. Mais jamais ils vont croiser Naples, puisqu'ils sont pas en Coupe d'Europe,
non.
Ils sont pas en Ligue des Champions, ils vont pas en croiser.
Ils vont croiser le PSG, par exemple.
Oui, mais comme l'objectif de l'OM, ça va être trois. En fait, dans un contexte franco-français, la performance de ce soir de l'OM, bah tu peux l'apprécier sans trop la critiquer, parce que en tout cas, si tu t'en tiens juste au match de ce soir, ils sont beaucoup trop loin. Ils voient pas un ballon, ils subissent la possession, ils sont dans leur camp, ils défendent à 10
non,
derrière.
Moi je trouve que t'es dur.
Il y a aucun problème.
Bon. Tu dis
non, moi je trouve que t'es dur.
Je suis pas Daniel,
par exemple, regarde, Dimitri Payet aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il a toujours fait, quoi.
On est en préparation, on est obligé de juger.
Il a une semaine de la reprise. À une semaine de la reprise, Naples, ils sont en vacances, ils vont encore se barrer aux États-Unis faire leur tournée promo.
Daniel, explique-nous. Tu dis pourquoi en tout sens ça sert à rien. Stoke City, les moins de 23, faut continuer de jouer des équipes à ta portée, voire plus faibles, pour gagner en facteur confiance.
Ou plutôt être en phase avec ce que tu vas avoir à faire dans ta saison. Ce match-là, il est bien, il remplit ton stade, tu passes à la télé et tout, mais il faut surtout pas le regarder si t'es supporter de l'OM, parce que tu prends peur.
Non,
il faut les supporters de l'OM ce soir, t'as envie de le dire, t'inquiète pas. Tu vas pas croiser Naples, tu vas pas croiser de grosses équipes cette année.
Tu vas croiser le PSG quand même.
Oui, mais ça on s'en fout, ça compte pas. Mais le PSG en Ligue 1, il compte pas pour l'OM.
Ah si, quand même, je pense que pour les supporters marseillais, tenter d'avoir
messieurs, Cédric au 32-16 qui nous dit je ne peux plus voir à ma vie. Payet a l'air en forme, c'est bien, mais à ma vie, j'en peux plus. Effectivement, le dossier latéral gauche, c'est un vrai dossier. Bonsoir à toi, Cédric, vas-y.
C'est quand t'es pas fit que c'est pas normal.
Je suis d'accord, mais bon, on est obligé.
Ouais, Cédric, il y a des joueurs que tu peux plus voir, il y en a d'autres qui t'ont fait plaisir ce soir.
Ben oui, non, mais en fait, Daniel, oui, je suis d'accord. Il y a des trucs que je suis d'accord avec toi, mais tu sais, nous, on n'est pas des footix, quand on voit ce match-là, on sait que c'est un match de préparation, et nous, ce qu'on veut voir, c'est juste voir l'attitude, voilà. Et voir si les mecs, ils sont fit. Voilà, c'est juste ça. Là, moi, je voulais voir Mandanda.
Donc, ce que tu veux, c'est voir des trucs qui sont archi normaux et que tu devrais même pas noter, en fait.
Ah, il est bien. Mais oui, non, mais c'est ça. Ça, tu le notes, parce que voilà, t'es passé à la télé, mais sinon, tu le regardes d'un œil juste physique, on va dire.
Ouais, mais d'accord, tu trouves pas que c'est fou de te contenter d'analyser si le mec, tu vois, depuis le début de la saison, excusez-moi le parallèle, j'arrête pas d'entendre putain Verratti comme il est fit et tout. Eh bien, c'est normal. C'est normal.
Oui, mais ça normalement, on devrait même pas le dire.
Avec 5 kilos de pro. Donc Payet, il est fit. Mandanda, il est allé à Merano. Ok, génial, super. On parle football ou on parle de c'est quoi? C'est comme j'aime. C'est ça, c'est comme j'aime là. Appelez l'autre là. Comment il s'appelle déjà là? Le mec de comme j'aime, Thomas. Tu connais? Toi, t'as fait le programme.
Comme j'aime, j'ai fait le programme. Je ressemble à quoi, un mec c'est quoi?
Bertrand Cadetti, là, voilà, c'est lui. Voilà. Appelle-lui, et puis tu fais une émission avec lui.
Ah, la pub de ce mec-là, là. Voilà. Mais non, mais ça y est, il est en vacances, il est en vacances.
Me dire, les mecs sont fit.
Bien sûr, il y a un contexte.
Mais c'est normal d'être fit.
Non, il y a un contexte. Il y a un nouvel entraîneur, d'accord? Il y a un nouvel entraîneur.
Alors, parle-moi du nouvel entraîneur, du jeu, de ce qu'il essaie de faire.
Il y a un nouvel entraîneur, déjà, ce qu'il a fait.
Mais pas des mecs qui sont fit.
Mais si, déjà, le nouvel entraîneur qui est arrivé, il a permis quand même à certains joueurs, on a l'impression de se relancer, de se donner entre guillemets ce qu'on appelle une deuxième jeunesse. Mandanda, voilà, il a été à Merano, tu l'as dit. Attends, laisse-moi finir. Il a été à Merano. Il ressemble maintenant à un athlète de haut niveau. Malheureusement, on est obligé de le noter. Ok.
Et
Dimitri
oui.
Payet, pareil. Je trouve qu'il est en jambes.
Sauf que
Dimitri Payet, faut pas oublier, c'est un des meilleurs joueurs du championnat, pour moi. De la Ligue 1.
Non mais attends,
techniquement parlant.
Kevin,
tu vas me dire que Payet, il a pas une qualité technique, s'il est en forme quand même, Daniel.
Non, c'est pas ça, Kevin, même, Cédric. Il y a un petit peu quand même Alzheimer précoce, puisqu'il y a quelques mois, on disait, ceux-là, il va falloir qu'on dégraisse. C'est-à-dire tous les salaires à 400 ou 500 000 euros par mois.
Non, mais Trottmann, il peut partir vite. Trottmann, il peut partir. Il y a des joueurs certifs. Si vous le voulez le prendre en stage, RMC, prenez-le.
Moi, ce que j'ai vu de Radonjić aujourd'hui, je trouve ça pas mal, en tout cas prometteur pour un joueur.
Mais
on est en Ligue 1, c'est faible.
Ouais, mais là, c'est pas la Ligue 1, là, c'est l'OM. Alors, il faut voir un peu le niveau pour porter le maillot.
On n'aura plus du tout d'exigence.
Radonjić, il y a un peu de qualité. Il est techniquement, c'est pas dégueu.
Je te suis plus, Daniel. Quand il a fait le Don Quichotte en disant c'est pas mal, tu dis non, de toute façon, on n'est pas au niveau, faut plus leurrer. Mais là, tu dis on ne doit pas être dans un aveu d'impuissance permanent.
Ouais, bah oui, je suis obligé d'alterner, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essaye d'être exigeant, il faut me taper sur la tête, disant attends, c'est la Ligue 1, ah oui c'est vrai, il y a pas besoin. Donc effectivement, ça peut manquer de cohérence, mais quand t'as envie que ça se passe bien, quand t'as envie de voir des choses bien, si derrière il faut immédiatement se rappeler, ah oui c'est bon, vous inquiétez pas, l'OM ne joue pas la Coupe d'Europe cette année, l'OM ne jouera qu'un match par semaine. ne soyez pas trop exigeant, tout va bien se passer. Ok, bon, bah, s'il faut faire sans arrêt ce va-et-vient, oui, ok, je suis prêt.
Alors, sans caresser dans le bon sens du poil, moi, ce qui me fait un tout petit peu peur, je regarde l'effectif du Napoli, il y a déjà 30 joueurs. 23 joueurs. On mise énormément sur ce Dario Benedetto. On va regarder que ses trajectoires ou ses performances sont sinusoïdales. On mise beaucoup avec des garanties encore très faibles, Cédric, à Marseille.
Oui, mais après peut-être qu'ils ont pris cet Argentin parce qu'il avait déjà, au niveau de l'âge, ça apportait un peu d'expérience à cette équipe qui voulait, à mon avis, un peu plus rajeunir. Et avoir un mec un peu de grinta, vu qu'on a perdu Lucas Ocampos, que j'aurais gardé, mais à l'OM c'est sûr, vu le prix qu'on l'a vendu. Et Séville, à mon avis, vont se régaler avec lui, parce que même s'il est beaucoup moins brouillon qu'avant, et c'est un mec qui nous a beaucoup apporté au niveau défensif et qui s'est vachement amélioré au niveau offensif. On a perdu beaucoup en le transférant, mais après il y a des joueurs pour moi qui ont pas du tout le niveau pour jouer à l'OM. C'est ça le gros problème, quoi. C'est que si on jouait à 10 sans ma vie, je crois qu'on serait meilleur. Un exemple, mais il y a des joueurs qui n'ont, Radonjić qui est très gentil, Radonjić il a pas le niveau, mais il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau.
Dans ce cas-là, attends, si tu me dis, moi c'est chacun son avis, moi je ne tiens pas la vérité, tu as le droit de dire si tu veux que Radonjić n'a pas le niveau, ok. Donc tu crois que Bounassar est le niveau du LOM? Tu crois que Sakai,
pour moi, Bounassar, le niveau de l'OM, que tu as au moins l'honneur de porter le maillot de l'OM, quand même, parce qu'on n'est pas Guingamp, on n'est pas Sochaux, quand même. Parce que même si on ne joue pas la Coupe d'Europe, on doit avoir quand même des mecs avec un niveau technique, un peu, quand même, je dis pas d'être le Barça, mais au moins le minimum, quand même.
Mais ça, je préfère, attends, je préfère la remarque, parce que je pense que c'est plus là qu'il faut qu'on aille. Faire le truc, il a le niveau pour jouer à l'OM de Caen, comme tu disais, Kevin, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, quand tu commences à dire le mec qui vient à l'OM, c'est bien s'il a un niveau technique, alors que le mec vaille 10 millions ou 50 millions, tu peux avoir des mecs à 10 millions qui jouent un peu bien au ballon, qui vont mettre un peu d'intensité. Voilà. Quelle va être l'évolution cette année de l'OM avec Villas-Boas? Est-ce qu'on voit des progrès? Est-ce qu'on voit des mecs plus impliqués? J'ai quand même l'impression, voilà, c'est souvent ça quand t'as un nouvel entraîneur. Est-ce que des mecs sont revenus avec de nouvelles intentions aussi? Pareil, effet nouvel entraîneur. Dans le jeu, c'est pas ce soir que tu vas constater des choses, parce que Naples est trop fort pour toi, ce qui fait qu'ils t'ont acculé et t'as passé ton temps à défendre en essayant de sortir un petit peu. L'idée Payet en pointe, on la reverra pas, parce que c'est pas à son poste, et puis si t'as pris l'Argentin, c'est pour qu'il vienne jouer là. Tauvin apportera une qualité technique.
Pourquoi, si tu le reverras pas, pourquoi le faire dès la première minute? Pourquoi tu mets pas Valère Germain d'entrée alors à ce moment-là? Parce que Bounassar,
je pense qu'effectivement il compte pas sur Valère Germain, c'est ce que ça veut dire.
Il va l'associer quand même.
Il peut essayer, il a le droit lui aussi d'essayer des choses, voir un petit peu jouer en info neuf parce qu'il se doutait qu'il allait subir. Enfin, je sais pas.
Ouais, ça doit être ça.
Je sais pas ce qui a pu le pousser à tenter ce truc-là, mais il est. A priori, tu prends Benedetto, c'est pour le faire jouer avançant. Ouais. Donc Payet va se décaler parce que Villas-Boas a envie de jouer en 4-3-3. Il va le décaler à gauche. Et ça, c'est pour moi point d'interrogation. Tauvin doit rentrer. Ça va quand même apporter quelque chose de positif, forcément. J'ai vu Strootman ce soir. Il va réussir à le relancer.
Non, ça va être... On parlait des joueurs qui ont le niveau ou pas.
Attends, moi je suis l'ingénue. J'ai besoin de comprendre. Tu es en train de me dire qu'on va pas jouer à deux attaquants de l'année à Marseille?
Je pense que connaissant un peu, pour avoir eu deux entraîneurs portugais sur les trois dernières années, je connais pas beaucoup d'entraîneurs portugais qui jouent en 4-4-2. J'ai pas l'impression que Villas-Boas soit son chemin préférentiel non plus.
Donc Germain va jouer les coupes et encore.
Sauf
si Benedetto se pète. Attendez, ce mec-là quand même, qu'on a vu sur RMC faire une superbe Copa Libertadores l'an dernier, depuis en 22 matchs, 21 matchs pour être exact. 5 buts dont 3 pénaux, Dario Benedetto. Mais donc les garanties, elles sont pas énormes.
De toute façon, on ne sait pas. C'est un point d'interrogation. Tu peux pas savoir exactement comme, a priori, Strootman laisse sa place à Luis Gustavo. Est-ce que Strootman peut faire toute la saison, même en doublure ou associé avec Gustavo au milieu? Il y a toujours pas mal de points d'interrogation que les matchs de préparation ont pas permis les matchs de préparation n'ont pas permis de répondre à ces questions-là. Donc l'OM est toujours quand même vachement dans le flou. La seule chose qui a l'air d'être vraie, c'est la base, état d'esprit.
Bon, là, je fais une digression encore,
les mecs sont frais, dispo pour
bon sang. Voilà, si le mercato se fermait comme les Anglais le 8, on accélérerait un peu plus le mouvement et le 31 juillet, on y verrait un peu plus clair. Parce qu'effectivement, ouais, vous êtes en train de me dire qu'on n'a pas de visibilité jusqu'à la cinquième journée.
Quand t'as pas beaucoup de blé, t'attends les semaines.
Ouais. C'est clair. Et puis, il y a quelque chose, moi.
Ouais, et puis le panic buy derrière où tu vas aller acheter des trucs bizarres.
Il y a quelque chose.
Des fois, tu crois que la veste est bien, puis t'arrives à la première soirée, tu passes pour un con parce qu'elle est moche.
Et du coup, ça te coûte très très cher de la recintrer, hein.
Ouais, ça te couvre, tu le fais même pas.
Ou alors quand t'as un petit surplus pondéral, Mandanda, faut qu'il refasse toute sa garde-robe, là, il a perdu 10 kilos, à Merano.
C'est un truc de dingue. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant sur ce match. C'est l'attitude de Villas-Boas sur le banc. Mais également, un détail qui n'en est pas un, les coups de pied arrêtés. Moi, j'ai trouvé que sur coup de pied arrêté, j'ai vu 2, 3, 4 combinaisons au premier, au second, une remise en retrait pour une reprise de volée. C'est des trucs qui sont travaillés. Ça veut dire que les joueurs adhèrent aussi un peu au discours de l'entraîneur et à ce qu'il tente de mettre en place. On a vu que dans le jeu, moi, j'ai trouvé quand même le pressing plutôt cohérent en première mi-temps. Tu dis qu'ils ont été acculés, je trouve pas. Je trouve que Naples a joué aussi avec ses qualités.
Il voit pas un ballon.
Sur la première mi-temps, moi, je parle. Sur la première mi-temps, je trouve que Naples a joué aussi avec ses qualités parce que Naples, c'est une très, très bonne équipe de transition rapide vers l'avant. C'est là où ils ont marqué d'ailleurs.
Franchement, je pensais que sur la seconde période, l'OM allait égaliser. Je dis Naples, ils sont à court de prépa, ils vont souffrir
après,
un peu.
Après les changements ont complètement désorganisés.
Ils n'ont pas eu une moitié d'occasion. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de mouvement collectif intéressant.
Attends, numéro 9, avoir une occasion, c'est difficile. Mais...
Bah, quand tu demandes à Dimitri Payet de tirer les coups francs et de jouer avant-centre également, il en manque un à un moment. Ouais, Anzo est avec nous au 32-16. Il était là. Anzo, c'est bien le Anzo qui était au match, supporter de Naples, qui était au 32-16 avant la rencontre.
Ouais, exactement, j'étais là en rencontre et puis je suis là pour confirmer.
T'avais misé 2-0 avec Kevin et Kevin avait dit ce serait pas usurpé. C'était ça l'histoire. Hein. 2-0 pour Naples, t'avais misé, non?
Ouais, j'avais 2-0 pour Naples parce que je voyais pas marquer Marseille. Je voyais pas Marseille marquer ce soir avec les attaquants qu'ils ont. Enfin, c'est pas des attaquants, ça va bien pour jouer en Ligue 1, ça marquerait leur dizaine de buts, mais pour jouer au-dessus. Ils sont cassés les dents tout du long sur Manolas en première mi-temps. Puis après, derrière, Maximovic et Kirikès ont très bien fait le boulot sur la deuxième période. Et Marseille, offensivement, c'est inexistant. Après, ça permet d'accumuler de la confiance du côté du Napoli. Nous, nos objectifs...
Pas Naples qui n'a pas fini son recrutement, en plus.
Qui sont assimilés à des matchs de Ligue des Champions, comme pour Marseille.
Anzo, on en parle avec Daniel justement. Rames, la piste s'est pas terminée. Pépé, finalement, leur a glissé entre les doigts. On en parlait nous pendant le direct. Irving Lozano du PSV, 17 buts, 11 passes cette saison. L'agent c'est Mino Raiola. Il y a déjà eu des discussions avec Cristiano Gintoli. Est-ce que c'est déjà cette idée de renouveler Mertens Insigne?
De toute façon, il va y avoir du recrutement. Il va y avoir un ou deux joueurs forts qui vont aller à Naples.
Complètement, c'est annoncé. Si c'est pas Lozano, c'est Icardi. Il y a Rames dans les tuyaux. Rames, c'est récurrent. Gelotti en contact régulier avec lui. Lozano, normalement, ça devait se faire dans les premières journées du mercato. Bah, ça a traîné un peu parce que y avait Pépé qui venait s'immiscer au milieu, mais au final, je suis content qu'il aille pas à Naples.
Rames a beaucoup plus le profil Naples que Pépé.
Complètement.
Rames,
Carlo Ancelotti
l'adore.
Lozano, il a complètement le profil.
Lozano, j'adore. S'ils arrivent aussi bien Lozano que Rames.
24 ans, Eredivisie, tu fais la même chose qu'avec Dries Mertens. T'as cette garantie-là, t'as cette continuité-là.
Même profil que. D'ailleurs, pour les clubs français, là. Lyon, Marseille, il y aurait pas un ou deux joueurs à se faire prêter dans cet effectif pléthorique, hein. Je pense à Amine Younes, par exemple, qui joue pas du tout.
Amine Younes, après, il a fait un très bon match, il est en train de faire une très belle préparation.
Ouais, bon,
belle deuxième période de saison.
Et moi, j'ai bien aimé le jeune Luperto. J'ai bien aimé le jeune Gaetano, par contre, franchement, ouais. Pas mal le milieu de terrain avec sa teinture blonde, là.
Tout à fait. Ça, c'est une petite spécialité napolitaine au niveau capillaire. Mais
ils ont piqué ça à Richard Biron que l'année 98, c'est bien, quand même. Les cheveux peroxydés, Caléron l'a fait aussi.
Ouais, tout à fait. Et avec Ancelotti, c'est ça qui va faire la différence sur cette année. C'est que l'année dernière, c'était une transition. Il a mis en place sa tactique de compte plutôt que le jeu de possession de Sarri. Là, il est en train de recruter, de mettre sa patte dans le recrutement. On est en train de se professionnaliser du côté de Naples. On est en train de devenir, pas comme la Juve, mais on s'en rapproche dans le sens où on est tueur. On n'a pas eu 50 occasions ce soir. On en a mis une derrière. On a géré. Et on n'a pas été inquiété plus particulièrement que ça par Marseille.
C'est déjà ça la force de Naples. Avant, Naples essayait de se battre contre la Roma pour aller chercher cette deuxième place. Là, sur les quatre dernières saisons, finalement, ils n'ont plus qu'un objectif, c'est de regarder devant la Juve et non dans le rétro.
mais complètement, et c'est le discours qui est tenu durant toute cette période de préparation. Les joueurs veulent le Scudetto. Ancelotti dit qu'il veut le deuxième poste lui suffit plus, il veut aller chercher la première place. Le président est dans l'optique de, ça y est, on va dire, de sortir l'argent, parce que c'est souvent ce qui lui est proposé, enfin, reproché, pardon, d'avoir des oursins dans les poches. Et là, ça y est, la machine est en train de se mettre en place. Et maintenant, on en a marre de participer, comme on dit à Naples, on veut gagner, quoi.
Merci Enzo, équité oblige. Merci. On va passer à Mousse, qui était aussi au stade et qui lui est un fidèle auditeur et supporter de Marseille. Donc on va avoir comme ça une vraie équité, on est impartial dans l'after. Salut Mousse.
Bonsoir Daniel, bonsoir à vous tous.
Salut, ouais. Bonsoir.
Ouais. Bon, ben moi j'étais au stade et mon constat, on a changé le berger, mais on a gardé le même troupeau. Donc... on a joué contre une équipe qui a joué sur une jambe, et voilà, donc ben, il y a encore du boulot, et on va, à mon avis, comme j'ai dit il y a quelques temps, on va repasser encore une saison de galère, voilà. Parce que moi, ce soir, je voyais pas à quel moment on pouvait marquer un but. J'ai pas vu un moment où on allait inscrire ce but, donc... on repart avec
Mousse, ton dernier podium. Ton dernier podium, c'est en mai 2013. Ensuite, c'est le zéro pointé en Ligue des Champions, saison 2013-2014. Il y aura 7 saisons sans Coupe d'Europe. Pour toi, ça ne peut pas évoluer dans le bon sens?
Non, pas avec les dirigeants qu'il y a à l'heure actuelle. Là. C'est impossible. L'auditeur là d'avant qui parlait de Campos, il a raison. Hein. On va au Campos, mais on prend personne derrière. Alors moi je sais pas, moi la seule personne qui nous marquait un peu des buts, c'est Balotelli, mais il paraît qu'il nous coûtait très cher, il était très difficile à gérer. Voilà, donc on a aucun dirigeant qui est capable de gérer ce club.
Hélas, il va se barrer à Vérone. Hélas, oui. Vérone pour Balotelli. Non mais c'est de dire le type de mercenaire aussi. À un moment, faut de la stabilité.
Putain, je savais pas qu'il
y avait... Hélas, Vérone. On joue sans attaquant. Je sais pas qui c'est qui a dit tout à l'heure le project Naples maintenant. Et ça va être quoi le prochain project? Ça va être. On n'a pas de dirigeant là.
On a entendu tout à l'heure formation project de la part de Kevin. Ben, on a entendu Napoli project. Voilà. Naples a quand même tapé 3-0 Liverpool il y a 10 jours, les gars.
Ok.
Vous n'êtes pas complètement okay. Carbo non plus. C'est ce que disait Daniel tout à l'heure. Finalement, c'est trop Naples pour toi maintenant quand t'es Marseillais. Naples a battu Liverpool 3-0 il y a 10 jours.
Mais Liverpool, il jouait avec 15 joueurs de la réserve. Il n'y avait pas Mané, il n'y avait pas...
Il manquait plein de joueurs. Dur, en fait.
Mais arrêtez
de faire
des comparaisons entre des matchs Naples et Liverpool. Aujourd'hui, c'était l'OM contre Naples. Et Naples a joué, j'y étais au stade, j'en sors. Ils ont joué sur une jambe. Une jambe.
Non, on en revient à ce que je disais au tout début. En fait, il fallait pas organiser un match amical contre une équipe aussi forte là à une semaine de la reprise, parce que ça met moralement une sorte de claque. C'est bien beau parce que ça remplit le stade et tout, mais en fait, ça te renvoie à ce que tu espères que l'OM redevienne ou devienne un jour, alors que tu sais très bien que bah t'en es très très loin, que c'est pas pour demain, que c'est peut-être même pas pour après-demain. En fait, ce match-là, ce match de ce soir, il te fait mal par rapport à ce que tu aurais envie que l'OM soit. Et il va falloir oublier tout ça, te replonger dans la première journée de championnat qui arrive samedi prochain, et oublier que effectivement t'es loin de la Ligue des Champions, qu'une équipe comme Naples qui fait même pas partie des cracks européens, bah t'en es très loin quand ils jouent alors qu'il leur manque des joueurs, et que comme tu dis, ils sont dans une autre division. C'est le choix même de ce match amical-là qui, moralement, est pas bon pour l'environnement marseillais dans son ensemble.
Kevin, je sais qu'il veut pas l'entendre, Daniel, mais Marseille, 5e avec un niveau médiocre et 13 défaites l'an dernier, des autres matchs de préparation que l'on a vus, ils sont pas moins bien armés, les Marseillais, dans ce championnat de France, non, pour cette saison.
Pour le championnat de France, non.
Non, mais
pour le championnat de France, ils ont franchement, il va falloir voir un peu de quelle façon ils vont jouer, mais il y a pas quand tu vois ce qu'on fait les autres dans les matchs de préparation, voilà. On sait très bien que la Ligue 1 est ouverte. C'est pour ça en fait, il faut rapidement à Marseille oublier le match de ce soir et se dire que la Ligue 1 c'est pas ça, et que avec les joueurs qui manquaient là et peut-être une autre recrue et en croisant les doigts vraiment pour que Benedetto soit un vrai joueur et qu'il soit pas fatigué et qu'il se remette vraiment de sa blessure, bah l'OM pourra le viser.
Moi je le remets aussi à l'esprit, je dis le dernier Dario qu'on a eu, c'était à Nice, Vitanić, il a mis 19 buts. Tu signes tout de suite pour un autre Dario comme ça.
Franchement, c'est j'exclus pas que l'OM fasse une bonne saison, hein, pas du tout.
Tout à l'heure on parlait de Lyon qui a joué contre Bournemouth et moi je disais de façon en étant un peu taquin que
tu l'avoues que Bournemouth quand même.
Bournemouth pour moi c'est top 7 en Ligue 1. Et on me disait, ah non, t'exagères. Moi, je pense que
Bournemouth,
c'est pas loin d'être top 7 en Ligue 1. Comme Naples, c'est top 1 en Ligue 1. Quoi.
Alors ça, qu'en ça se en première Paris ligue, c'est entre la 12e et la 17e place.
Les Marseillais, puisque tu parlais des matchs de préparation que tu avais là. Et
contre
les
clubs français. Une victoire contre Stoke City le 7 juillet, des moins de 23. Voilà. Ils en ont pris 4 contre Glasgow. Ça, et ensuite, ils gagnent les EA League One Games avec 8000 personnes d'affluence. 2-1 contre Bordeaux, 2-1 contre l'ASSE.
Voilà, les matchs de Ligue 1.
Ouais.
Eh ben, c'est très bien.
Et un 8-1 contre le DC United, l'équipe de Rooney, mais sans Wayne.
Voilà. Ouais. C'est ça. Tu vois, quand les matchs de Ligue 1, c'est ça qu'il faut regarder. Leur préparation contre, elle s'avère au final.
Mais c'est pour ça que je dis que perdre 1-0 contre l'équipe qui est pour moi une division au-dessus, en concédant, on va dire, peu d'occasions. Allez, deux occasions franches et en prenant un but.
Oublie-le, le match. Ce match-là, il est trop dur pour eux.
Mousse, on t'oublie pas. Au 32-16, tu reviens quand tu veux. On te souhaite néanmoins, même si t'es exigeant, une très belle saison en regardant ton équipe.
Merci les gars. Allez, bonne soirée. À bientôt.
Bonne soirée.
Salut. Dans un instant, on va parler quoi ? On va parler Premier League, parce que Liverpool-Norwich, c'est dès vendredi, et il y avait déjà un match cet après-midi. City s'accroche à tout. Ils ont remporté le championnat, ils ont remporté la Coupe d'Angleterre, donc il leur fallait un adversaire. On a pris le deuxième du championnat, Liverpool, et Liverpool s'est incliné au tir au but. Julien Laurence est avec nous dans un instant. C'est l'after sur RMC.
RMC, l'after foot, Thomas Desson.
Avec Elias qui est avec nous depuis 21h pour regarder, pour décrypter, pour analyser ce match de Marseille. On passe à l'Angleterre Community Shield cet après-midi. Et que de similitudes, parce que si le FC Riolo a gagné au tir au but, si le coach Riolo aime Pep Guardiola, et bien cet après-midi, les Citizens ont battu Liverpool également au tir au but.
Voilà, c'est tout pareil.
En fait, c'est aussi simple que ça. On les voit. Et qui était le numéro 10 de cette équipe dans le FC Riolo? Et bien Julien Laurence, que l'on retrouve avec nous évidemment. Salut Julien, pour parler, on va se faire plaisir, on va se faire une bonne vingtaine de minutes de Première Ligue parce qu'il y a ce championnat qui reprend vendredi et qu'on a eu.
Il est revenu de Brighton, Julien.
Brighton Hoven Albion. Et tu sais qui va à Brighton ?
Il a fait toute la
course. Neil Maupay qui arrive à Brighton. Tu savais tout ça. Julien, tout à l'heure je t'ai lancé comme ça et c'est vrai que ça résume assez bien le truc. Il joue deux matchs dans l'année, c'était le cas l'an dernier, le gardien des Citizens, c'était l'ancien gardien de la sélection chilienne. Bravo Claudio.
Tu vas faire donc tous les jours les matchs possibles à faire.
Claudio, bravo,
avec
bravo.
Les noms tout à l'heure à Hellas Vérone, là, Claudio, bon.
Jamais 203.
Tu les improvises ou comment
ça se passe? Non, sinon à un moment tu peux me dire. Tu pourras me dire, casse-toi pour voir.
Non, parce que t'as commencé, t'en as fait.
Il a bien aimé mon bravo Claudio. Donc,
je voulais savoir.
Claudio, bravo, joue deux matchs par an. Et là, il te fait un match d'anthologie. Combien d'arrêts sur Mohamed Salah en fin de rencontre et ce tir au but arrêté sur Wijnaldum?
Ouais, c'est vrai, le héros du match, hein, bravo. Lui qui a eu une saison galère la saison dernière où il s'était blessé très tôt, avait pas du tout joué, de le revoir comme ça à ce niveau-là dans un match pareil, ça a fait très plaisir forcément à Pep Guardiola, à Manchester City et à leurs supporters. Mais c'est un très bon gardien qui, à la base, rappelez-vous, était venu pour être le numéro 1 et pour qui ça s'est pas toujours très bien passé au départ. Et puis
il était même arrivé, un peu dans la boulette, hein, spécialisé sûr, quand même.
Ouais, complètement, ouais. Il a eu vraiment du mal à s'adapter au jeu anglais, à tes physiques, au fait que tu étais moins défendu par les arbitres en tant que gardien en Angleterre que dans d'autres pays, notamment en Espagne où il était avant. Et c'est vrai que c'était parfois il nous a fait un petit peu mal au cœur, il nous a fait un peu pitié, mais de le revoir à ce niveau-là, c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, même si quand Ederson reviendra, il prendra tranquillement sa place de numéro 1.
Sterling qui marque pour la première fois en 11 matchs contre son ancienne équipe. Vous vous souvenez évidemment des 3S, hein, Sterling, Sturridge et Suarez. Il en rate une derrière, ça permet quand même à Liverpool de revenir très très fort, Julien, en deuxième période. Pratiquement 70% de possession et de nombreux tirs sur les buts de Claudio Bravo.
Ouais, j'ai cru que Pep, qui a plus de cheveux, allait s'arracher quand même le poil qui doit lui rester sur le crâne, parce que ce 1 contre 1 là, effectivement, il tue le match. Hein. Si Sterling marque le 2-0, je crois que c'est juste après la pause, c'est terminé après. Et c'est vrai que Liverpool fait ensuite une excellente seconde période. Mais si on ne retient pas cette occasion-là ratée de Sterling, c'est encore un but. Je pense qu'il va faire une saison énorme, encore plus énorme que celle de la saison dernière et celle de la saison d'avant. Il est vraiment, comme on en parlait hier soir dans l'émission, hein, et je pense qu'il a vraiment franchi un palier la saison dernière, tant sur le terrain qu'en dehors, et c'est surtout peut-être son attitude en dehors avec sa prise de position contre le racisme, notamment, que ce soit le racisme dans le football mais aussi dans la vie de tous les jours ici.
Moi, j'ai l'impression que c'est devenu un homme, ce mec, et t'as raison de faire allusion à ce qui s'est passé en dehors. J'ai l'impression que le mec, c'est ses responsabilités sur tout, sur toute sa vie en général, en dehors du terrain, sur le terrain. C'est quand même un mec qui était excessivement critiqué il y a quelques années. Moi, je trouvais que c'était pour reprendre une expression courante, là, le poulet sans tête sur le terrain, tellement c'était incompréhensible ce qu'il faisait, où on sentait simplement un mec rapide. Puis petit à petit, et notamment grâce à Guardiola, c'est devenu un joueur fantastique en ce moment. Vraiment, il l'est, et pas, enfin, en ce moment, même la saison dernière. Et t'as raison de dire ce qui s'est passé en dehors dans sa vie. Je pense que ça l'a, mais ça l'a fait grandir, il a mûrir même.
Ouais, il a vraiment atteint sa maturité, surtout dans le jeu. Et c'est là où Guardiola est fort, c'est qu'il fait partie de ces entraîneurs qui tout simplement font progresser leurs joueurs.
C'est l'extra sportif, ou c'est le fait qu'avant il vendangeait, et maintenant qu'il a enquillé et enfilé les buts avec les Three Lions et City, il peut se permettre d'avoir plus d'aura et de poids dans le vestiaire.
C'est les deux, un joueur de foot, c'est comme n'importe quel travailleur. Lorsqu'il grandit en tant qu'homme, ouais. Il grandit aussi en tant que footballeur. Ouais. C'est pour ça que voilà, on acquiert de l'expérience, on travaille. Je pense qu'il a beaucoup travaillé à l'entraînement. Je pense que Guardiola est rentré un peu dans sa tête. Lui a fait vraiment simplifier son jeu, et surtout l'a emmené vers beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'efficacité dans le dernier geste, voire dans l'avant-dernier.
Julien, mine de rien, mine de crayon, City s'accroche à ça parce que remporter le championnat, la Coupe d'Angleterre et le Community Shield, c'est une première depuis Arsenal en 2002. Alors Klopp nous disait, ça ne sert à rien, si tu gagnes, mouais. Sauf que si tu perds, Doliprane, mal de tête. Mal de tête pour Liverpool aujourd'hui avec cette défaite ou pas, avant d'aborder la saison dans 4 jours?
Alors moi, je trouve pas du tout. Je sais pas ce qu'en pense Julien, mais
non, pas du tout.
Je m'attendais, parce que Liverpool, vu les dernières sorties, je pensais qu'ils n'étaient pas trop prêts. Moi, là, j'ai trouvé qu'ils ont fait un gros match. Non, c'est pas du tout, non, mal mais de tête.
Il n'y a que le VAR qui bat Manchester City. Il n'y a que le VAR qui bat. Non, mais, oui, mais je suis sérieux, depuis 15 mois.
Non, mais là,
les mecs, ils perdent 4 matchs, les autres 1, ils se les battent d'un point.
Non, moi je trouve que c'est même rassurant pour
Liverpool.
Est-ce
que ça ne trompe pas dans la tête, Daniel, au bout d'un moment? À la fin, c'est City qui gagne.
Mais ça va, Liverpool, ils sont champions d'Europe.
Je parle de championnat.
Ça compte quand même.
Non, mais c'est énormissime, les gars.
Excuse-moi, mais en termes de confiance, ils sont plutôt pas mal, non?
Parce que ce fameux depuis 29 ans, ils vont le prendre.
De toute façon, il va revenir dès la première journée la semaine prochaine, et puis c'est reparti pour une nouvelle histoire. Évidemment, tout le monde va en reparler à Liverpool. Et évidemment qu'ils vont dire, on préfère ça à être champion d'Europe, parce qu'on l'a déjà été plein de fois. Et puis, après, devienne que pour l'année dernière, tout le monde disait, entre la Coupe d'Europe et le championnat, évidemment qu'ils prennent le championnat, même eux le disaient tout le temps. À l'arrivée, ils ont été champions d'Europe. Je pense qu'ils ont plutôt fêté ça, non?
Je pense que si tu leur dis qu'ils ne seront pas champions d'Angleterre, mais qu'ils gagneront la Coupe d'Europe, ils signeront dès aujourd'hui aussi.
La grande, hein?
Oui.
Non, ce qu'ils veulent en priorité, c'est le championnat,
Lyon. Oui. Maintenant, oui. Mais bon, ils ont quand même. Si à la fin, on te dit, tu vas gagner.
Évidemment, s'il faut gagner un truc, ouais. Mais la priorité, on le sait, ouais. c'est le championnat.
Non, mais bien sûr.
Il y avait eu aussi un autre match, parce qu'on a envie d'un petit peu parler de toutes ces équipes. Ça se rapproche de la première ligue. Il y a eu un petit Tottenham Inter, on va en parler dans un instant, parce que là il y a eu une revue d'effectifs énorme. Enfin, Antonio Conte qui revient.
Ils sont bien, Julien, ils sont bien Tottenham là, non?
Ils sont très bons. Moi je les ai vus sur la Audi Cup, ils sur RMC Sport 1. Franchement, Tottenham contre le Bayern, mais également contre le Real. Honnêtement, dans le jeu, Pochettino, quand même, son équipe, ça joue au football.
Ouais, ils ont perdu au tir au but contre Antonio Conte et l'Inter. Enfin, il y avait mille changements. Je vais un peu trop vite parce qu'on a des hommes au 32-16. On a Abdella qui est là sur la fin. Abdella, bonsoir à toi. T'as senti effectivement que City était juste. Liverpool aurait dû le remporter selon toi?
Moi je suis un peu du même avis que Daniel. Si j'étais Jürgen Klopp, je serais un peu rassuré, parce que c'est vrai qu'ils ont remporté le match, mais bon, dans le contenu, c'est quand même inquiétant ce qu'ils ont proposé Manchester City par rapport à Liverpool. Parce que Liverpool, bon, ils ont bien joué, ils ont bien dominé l'adversaire. Mais bon, Manchester City, on a quand même vu qu'ils avaient pas mal de lacunes sur la fin de match. Surtout physiquement, ils étaient un peu, au fil du temps, ils se sont acculés vers leur cage. Donc voilà, après bon, la victoire c'est toujours ce type là, mais bon, dans le contenu, je pense que Liverpool, ils peuvent être rassurés pour cette année, quoi.
Mmh. Avec tiens, tout ce que va de Liverpool,
ça a changé, c'est un peu voilà quoi, c'est un peu dommage.
Puisqu'on parle de Liverpool, Julien, je me suis absenté un petit peu. Il y a pas de recrue à Liverpool. Comment ça prête à démarrer la saison au niveau de l'effectif?
C'est vrai que c'est très intéressant, effectivement. Pas de grosses recrues. Deux jeunes joueurs, Seb Vandenberg, le défenseur hollandais, et Harvey Elliott, le petit prodige anglais de Fulham, qui était devenu la saison dernière, le plus jeune joueur de l'histoire à jouer en Première Ligue. Il avait 16 ans et je sais plus.
Non, rien qui doit changer l'équipe de l'année dernière, le 11 titulaire, a priori.
Mais ce qui est surprenant quand même, c'est que qualitativement et quantitativement aussi, tu pouvais penser qu'ils allaient pouvoir renforcer un peu leur effectif. Ils ont l'argent pour, que peut-être Klopp pouvait aller chercher par exemple un autre arrière droit, parce que derrière Alexander Arnold, c'est vrai que Gomez peut jouer là, et d'ailleurs il a fini la rencontre d'aujourd'hui à ce poste là mais c'est
peut-être qu'il est totalement satisfait de son effectif, hein. Il a perdu personne après tout.
Bah par exemple, non, mais t'as un Moreno par exemple qui certes jouait pas beaucoup au poste d'arrière gauche,
oh oui,
mais
Moreno,
qui pouvait toujours remplacer et dépanner. Non mais mais maintenant ça veut dire que si Robertson se blesse, n'oublie pas que l'année dernière, Daniel, par exemple, entre Alisson, Van Dijk, Mané, Firmino et Salah, ils ont joué 95% des matchs. Ça veut dire que aucun d'entre eux à un moment n'a été blessé plus que tu vois un petit
tu veux dire que compléter l'effectif avec des mecs qui auraient pu permettre au Cador de souffler, ça aurait pu être quelque chose de
bien. Ah oui,
de
là, bien les deux dont il te parle, ils ont 16 et 17 ans. James Milner, excuse-moi Julien, était blessé, il devrait être là vendredi. Et pourquoi je vous coupe deux secondes, parce que si on a un Claudio Bravo au Citizen, ça vient d'être fait. Mignolet signe 5 ans à Bruges. Qu'est-ce qui se passe derrière Alisson? La profondeur, on n'en a pas beaucoup hein, chez les Reds.
Non, et tu sais, juste pour revenir rapidement sur ça, la saison dernière, ce qui leur coûte le championnat finalement à Liverpool, c'est ces 4 matchs nuls-là qu'ils ont en début d'année, entre janvier et février, parce que sinon ils n'ont qu'une seule défaite, celle contre Manchester City tout au début du mois de janvier, mais à ce moment-là, ils avaient 7 points d'avance avant le coup d'envoi, ils en ont encore 4 après cette défaite-là, et c'est les matchs nuls d'après où à un moment ils ont tiré la langue. Un moment, devant, ils avaient plus de mal à enchaîner.
Tu sens que ça s'est joué un peu sur l'état de fraîcheur.
Sans aucun doute, à un moment, quand ils ont enchaîné ces matchs nuls-là, et je pense que, au niveau de l'effectif en lui-même, au niveau, comme on l'a dit tout à l'heure, du nombre de joueurs dans cet effectif-là, ils auraient peut-être pu renforcer un petit peu. Ils ont encore 4 ou 5 jours pour le faire, ils le feront pas, je pense. Mais c'est vrai que c'est intéressant et voire étrange.
Mais il en a parlé, Klopp, c'était des sujets qu'il a abordés, le mercato?
Ouais, en disant que lui était très content. Effectif, qu'il n'avait pas besoin, hein, que ce ne serait pas un été de folie au niveau des transferts, parce qu'ils ont énormément dépensé l'année dernière, ce qui est vrai. 200
millions
d'euros.
De toute façon, ça n'a pas été globalement en Angleterre, hein, l'été de folie.
Non, assez calme. Regarde Manchester City, à part Rodri et Angelino, l'arrière-gauche, c'est à peu près tout. Manchester United devait, lui, surtout défensivement.
Ah, Manchester United, recruter, là, c'est la folie qui continue. Là, c'est toujours aussi étonnant.
Oui, ils se sont fait ouvrir.
Franchement, ce qui se passe,
bien fait ouvrir. Justement, la transition est toute trouvée, messieurs. T'as ces deux mastodontes, là, qui bougent à peine. Rien ne bouge parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Bref, l'adage, comme vous voulez. Deux Espagnols, effectivement, à City, mais interdit de recrutement à Chelsea. Arsenal essaie de s'accrocher. Il y a Emery qui dit l'autre jour au match du centenaire d'Angers, finalement notre meilleur défenseur c'est celui qui veut plus être là, c'est Koscielny, donc t'es quand même très friable.
Julien,
il y a que Tottenham qui est l'arbitre de ces deux-là cette année.
Moi Julien, j'avais quand même une question concernant, parce que nous on suit ça depuis la France, mais Manchester United, franchement ça fait 5, 6, 7 ans. En gros, depuis le départ d'Alex Ferguson. En gros, ça fait 10 ans, quoi. Ça fait presque 10 ans que, au niveau du recrutement, ils enchaînent erreur après erreur. Alors là, c'est pas forcément une erreur, hein, de prendre Maguire, qui je pense est un bon joueur. Bon, par contre, alors, je répète qu'on me dit souvent en ce moment, oui, mais il y a plus de valeur, les joueurs, ils ont plus de valeur, c'est l'offre et la demande. S'il y a un pigeon qui veut mettre 90 millions, il a qu'à mettre 90 millions. Bon, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais bon.
Non, mais c'est surtout qu'est-ce que ça représente pour toi?
Hein?
Oui. Bon, moi je suis d'accord, effectivement ça peut nous sembler complètement fou de mettre cette somme sur bon, d'abord
Wan-Bissaka surtout.
D'abord ils avaient besoin de défenseurs parce que leur défense centrale elle était moisie.
Ouais.
Et 90 millions ou 14, je sais pas combien a coûté exactement Maguire. pour eux, je sais pas moi, c'est ça représente peut-être la moitié pour toi.
Ouais, non, mais je veux dire, je parlais aussi de.
Je parlais
de Wan-Bissaka. Alors certes, je sais bien.
Non, mais eux, il y a que des trucs complètement fous.
Je sais bien qu'en Angleterre, c'est important d'avoir des internationaux.
Wan-Bissaka, le jeune qui a l'Euro des moins de 21, ouais, voilà, qui met un.
J'avais même discuté avec le head scout de Manchester United à l'été dernier, vraiment. Mais je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas la politique de recrutement qu'ils ont depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qu'on en dit en Angleterre?
C'est très simple. Le problème de la politique de recrutement de Manchester United, c'est qu'il n'y a pas de politique de recrutement. Il n'y a aucune stratégie.
Non, on est d'accord.
Il n'y a surtout aucune structure de recrutement. Et ben, c'est quelqu'un qui s'appelle Ed Woodward, qui est donc le
PDG
de ce club qui lui.
Voilà. Voilà,
ah oui, complètement, oui. En bois, mais même. Non,
est... Bravo.
Mais même là, c'est bon, c'est validé. Vous, de bois, vous l'avez. C'est bon pour Daniel. Il revient de vacances. Tu vois, faut y aller doucement. C'est les matchs de prépa.
Donc, Julien, alors, Ed Woodward et.
Mais le problème de Woodward, c'est qu'il est en charge des transferts, puisqu'il n'y a pas de directeur sportif au club. Et c'est le grand problème, hein. Et d'ailleurs, ils voulaient à un moment, ils en cherchaient un. Ils ont d'ailleurs parlementé avec pas mal d'anciens joueurs, notamment, pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse justement assumer ce rôle, le rôle de Leonardo, par exemple, au PSG, ce genre de rôle. Oui,
bah celui qui suit les joueurs depuis longtemps, qui essaye de voir dans l'effectif. Donc au final, Woodward va voir l'entraîneur, demande à Solskjaer quel genre de joueur il te manque, on a l'oseille pour mettre dessus, donc en fait c'est entre Woodward et Solskjaer. Solskjaer, l'erreur qui a été faite, moi je le dis depuis 6 mois, c'est d'avoir considéré que c'est à lui qu'il fallait donner les clés de ce club, de considérer que ça allait devenir un très bon entraîneur. Bon, bah ok, maintenant il est en place, je sais pas comment l'histoire va se terminer avec Pogba. Et comment derrière ils vont réagir? Qu'est-ce qui se passe avec Lukaku aussi, qui doit visiblement atterrir à la Juve? Et là, j'ai pas non plus compris.
On va en parler dans notre passe mercato. Donc, on parle de Mandzukic désormais à Manchester United.
Mandzukic à Manchester.
Bah donc un échange alors.
Oui. Non, mais c'est du grand Mandzukic à Manchester aujourd'hui.
C'est la tripartite avec Dybala. On parle de Mandzukic.
Ok, mais visiblement Lukaku, donc ça pourrait être Lukaku qui va dans un sens. Ouais.
Mais ça bouge. On parlera de ça aussi rapidement tout à l'heure. Moïse Keane de la Juve qui arrive à Everton aussi. Tu vois, ça bouge quand même ces derniers jours.
Lui, tu vois.
Ça bouge ces derniers jours.
Déjà, faudra avant de le voir quelque part, faudra m'expliquer pourquoi la Juve a fait partir un joueur aussi jeune. Ça, c'est assez incroyable parce qu'il était bien resté sur. Une année où, en tout cas, à chaque fois qu'il rentrait, il montrait des choses très positives, il commençait à être apprécié par les supporters, parce que c'est un gamin du club. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Très bizarre.
On en reparle dans un instant dans le mercato.
J'ai juste émis l'idée, peut-être que Sarri veut faire de la place à Higuain. C'est possible?
Le mec a joué moins de 600 minutes, il t'a mis 6 buts quand même. Le ratio était fabuleux pour Moïse Keane. Yanis au 32-16 voulait revenir. Excuse-nous Yanis, on était parti dans la discussion avec Julien Laurence qui est avec nous en direct depuis l'Angleterre. Pas mal d'absents, tu nous dis, de côté City. Et puis Leroy Sané qui doit signer. Est-ce qu'il n'a pas les croisés? Est-ce qu'il ne s'est pas pété à la 13e minute en plus?
On n'espère pas.
Tout à fait. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors oui, dans un premier temps, Leroy Sané, blessure. Donc heureusement qu'ils l'ont sorti. On ne sait pas ce que c'est. Donc on attend d'avoir des informations sur justement cette blessure-là. Après, je voulais juste revenir sur l'intervenant qui est passé... juste avant moi, il a dit que c'était inquiétant du côté de City. Moi, je trouve pas du tout. La première mi-temps, c'était plutôt correct. Ensuite, la deuxième, oui, Liverpool a poussé parce que voilà, on gagnait 1-0. On a raté une belle occasion avec Sterling et Paul Walker. Mais c'est pas inquiétant. Il faut savoir que City leur manquait quand même leur colonne vertébrale.
Ah, Yannis, quand même, donc, 17 tirs de Liverpool, 9 cadrés.
Comment?
17 tirs de Liverpool, 9 cadrés. Il y a plus qu'un tir cadré de City en deuxième période.
Mais ça, c'est pas nouveau. On sait que City, quand ils défendent, ils ont pas l'habitude de défendre. Donc c'est sûr contre des équipes contre Liverpool, ils sont en difficulté. Après, moi personnellement, j'étais pas du tout inquiet. Après, c'est vrai que
il faut arrêter de se refiler la patate chaude de l'inquiétude. C'est un match entre deux des plus grandes équipes en Europe. Si sur la deuxième période Liverpool domine City, ça veut pas dire forcément que City c'est panique à bord, faut s'inquiéter, parce que dans ce cas-là, si City avait mangé Liverpool, c'était panique à Liverpool, tout le monde se suicidait. Faut se calmer, c'est un match de très haut niveau. Il y a eu des va-et-vient. Manchester a mieux démarré. Liverpool a fait une grosse seconde période. Bon, c'est à peu près normal que ces deux équipes-là se jouent, que ce soit très disputé, que Liverpool prenne le dessus un moment sur City. Il n'y a pas matière à flipper là-dessus, quand même.
Bah, les rapports de force à ce niveau-là.
Et juste petite information concernant le mercato. Si je dis pas de bêtises, il y a Cancelo qui va sûrement signer en échange avec Danilo plus de l'argent. Si je dis pas de bêtises du côté droit.
Je comprends pas. Je comprends pas non plus le choix de la Juve, mais je comprends. On parlait des choix de la Juve.
Le choix, c'est aussi qu'il y a un nouvel entraîneur qui s'appelle Sarri, qui a des idées très claires sur ce qu'il veut faire. Ouais. Effectivement, il est possible qu'il y ait des choix un peu curieux. Ouais.
C'est une très bonne pioche pour
échanger Cancelo et Danilo. Je comprends pas, mais bon, après, c'est chacun son.
Le Sarri Ball avec Lukaku, j'ai un petit peu de mal à l'imaginer.
Mais c'est pour ça que je n'arrive pas à la comprendre, cette rumeur-là. Lukaku, je vois pas en quoi ça correspond au jeu de Sarri.
Surtout quand tu as laissé partir Moïskine. Prendre Lukaku,
surtout,
c'est un peu le même profil.
Daniel, surtout Dybala, Lukaku, Dybala, je comprends toujours pas et je cherche.
Non, mais tant que les transferts seront pas faits, on aura le temps à ce moment-là de
Dybala
se poser les questions.
Pas, normalement à Manchester. Hein.
Là, pour l'instant, on en est qu'à entendre des bruits, mais quand les transferts seront faits, on verra s'il faut trouver ça bizarre.
Yanis, on va les faire évoluer et on va les évaluer ces bruits de couloir et ces confirmations dans le mercato show dans un instant. Merci Yanis, tu restes avec nous et tu reviens quand tu veux au 32-16. Continuez de réagir également sur le hashtag RMC Live. On embrasse Julien Laurence qu'on va retrouver très vite et très souvent, parce que la Première Ligue, c'est à partir de vendredi soir sur RMC la télé, RMC Sport, et puis il y aura
PSG. On revient cette semaine pour faire un point mercato complet là, parce qu'il y a plein de.
Ah oui, on va être obligé, Julien.
En Angleterre.
Peut-être même dès demain, Julien. On va voir avec Cyprien Bétou qui nous prépare.
Dès demain,
émission.
Les gars, je crois. Oui, effectivement.
Bah, voilà.
Voilà.
Dès demain, on est ensemble avec Julien. Vous, Daniel, avec Ludovic Aubragnac. À demain, Julien. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup.
À demain, les gars.
Le Mercato Show avec Angie Loata, c'est dans l'After, c'est sur RMC, c'est dans un instant. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, Thomas Desson.
Ce soir avec Daniel Riolo qui est de retour, le teint allé, la verve est là, tout va bien. Marseille a perdu 1-0 contre Naples. City a gagné au tir au but. Kevin Diaz a suivi tout ça avec nous depuis 20h et Angie Loata est là pour le Mercato Show.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te le manger.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
Salut Angie, rebonsoir. Rebonsoir. Tu nous dis, c'est vrai que par rapport aux 2-3 derniers jours, journée plutôt calme aujourd'hui.
Très très calme aujourd'hui.
Hormis quelque part.
Bah, heureusement, quand il n'y a rien qui se passe véritablement sur le marché des transferts, il y a toujours quelque chose qui se passe à Lille. Le club qui anime toujours nos journées un peu tristes de mercato. Info RMC Sport, Yazici, le Turc arrive à Lille, il atterrit à Bruxelles demain matin. Il n'y a pas d'officialisation encore, mais ça va se faire. C'est pas vraiment un attaquant, c'est plutôt un milieu offensif. Il évolue à Trabzonspor en Turquie. 18 millions d'euros dépensés par le LOSC sur ce joueur. Il a 23 ans, il est international turc. Il a marqué 4 buts et fait 2 passes décisives l'année dernière.
18 millions, c'est qu'ils sont sûrs que c'est un bon joueur.
En une trentaine de matchs, ça c'est ses stats de l'année dernière, elles sont pas folles. En revanche, sur l'année précédente, c'était bien mieux quand même. Il a mis 10 buts.
Benedetto, c'est 18 millions, t'es pas sûr?
10 buts et 5 passes décisives l'année précédente.
Marseille, quand ils achètent, ils veulent que ce soit top. Ils sont prêts même à faire des achats un petit peu. Alors que Lille, on sait que c'est dans l'investissement. Et comme pour l'instant, Campos se trompe pas beaucoup, j'ai envie de le croire. Donc je me dis qu'il doit être bon, le mec.
C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En général, lorsque Campos recrute un joueur, c'est qu'il l'a vu sur une, sur deux saisons, sur plusieurs matchs.
Et s'il met 18 millions.
C'est qu'il a envoyé plusieurs personnes pour recouper les informations. Normalement, on peut lui faire confiance.
C'est ce qu'a expliqué Gérard Lopez à plusieurs reprises. Hein. Il a dit qu'il faisait du scouting une année avant et qu'il prévoyait à chaque fois de pouvoir remplacer tout son effectif si un joueur voulait partir.
Ça, tout ça, il a rentré bien. Il a bien rentré de l'oseille là, pendant les vacances. Lopez, il a de quoi faire.
Dario Benedetto donc était au Vélodrome. Avec son tatouage, mais pas encore avec son
pas
maillot.
Pas encore avec son contrat, non. Pas encore avec son contrat, ni avec son maillot.
Visite médicale ou déjà
visite
faite ou pas?
Visite médicale demain. Ah. Signature du contrat, du coup, dans
c'est
la foulée.
Elle fait peur, la visite médicale. J'en sais rien, je sais pas.
Lorsqu'on voit les visites médicales dans le sud de la France, alors c'est plus du côté de Monaco, mais en ce moment, et c'est
en
bien.
En tout cas, c'est la preuve que jusqu'au dernier moment, il peut se passer des choses.
Ah, il peut se passer des choses encore. Hein. Les supporters marseillais vont pas dormir sur leurs deux oreilles.
Hein. Surtout pour un joueur qui avait été annoncé comme étant blessé il y a deux semaines par son club. Alors c'était probablement un peu diplomatique pour retarder le départart et puis l'annonce aux supporters, etc. Mais il avait été annoncé comme blessé il y a deux semaines.
En train de nous faire flipper là que demain soir on soit là pour débattre d'une visite médicale
ratée, ce serait affreux.
Malheureusement, quand un joueur a eu les croisés, il y a moyen que la visite médicale se passe moins bien que prévu.
Arrête, Kevin, tu vas faire flipper tout le monde.
Il va s'engager 4 ans.
Si la visite médicale
est... À Boca, on essaye déjà d'aller chercher Gignac. Gignac qui vient de devenir le meilleur buteur de l'histoire de Monterrey. C'était il y a 2 heures avec les Tigres.
Marseille qui a récupéré Gignac.
Qui a dit je veux pas. Donc du coup, c'est APG qui va revenir. On enchaîne. Effectivement, vous nous parliez de Luis Campos. Ben, on va parler de Monaco. Un jeune qui quitte l'AS Monaco. Tiens, c'est assez rare.
D'habitude, c'est l'inverse. Masengo, le jeune milieu offensif de l'AS Monaco.
Pourquoi ça fait tant d'histoire, là, ce truc-là?
Masengo?
Ouais.
Pourquoi ça devrait pas faire tant d'histoire?
Je sais pas, j'ai vu que ça a provoqué pas mal de remous et tout ce transfert-là, non?
Bah. Peut-être parce que c'est pas dans l'habitude des dirigeants de l'AS Monaco de vendre un jeune joueur à fort potentiel, entre guillemets. Mmh. Et là, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire. En plus, il va à Bristol, ce qui est quand même assez étonnant. Il rejoint un club anglais, mais un club de deuxième division anglaise. 8 millions d'euros pour l'AS Monaco, 20% à la revente pour l'AS Monaco également. Il a 18 ans, dans les 48 heures, donc il va passer sa visite médicale et signer à Bristol.
Moi, je pense que c'est simple. Hein. L'AS Monaco voulait dégraisser pour connaître quelques personnes dans l'entourage de l'AS Monaco. Ils avaient envie de faire de la place. Ils avaient beaucoup trop de joueurs sous contrat.
60 environ début de semaine.
60 joueurs sous contrat, c'est beaucoup trop. Et donc, ils étaient prêts quand même à consentir à vendre quelques pépites, même si c'était pas forcément le plan initial. Je pense que Leonardo Jardim. Pépites,
s'il va à Bristol et si à ce prix-là, il va pas dans un club plus gros, c'est que. On en parlait
pendant le match de Marseille, mais regarde par Moussa Dembélé. Alors on n'aime pas, mais l'attaquant de Lyon aujourd'hui, qui était parti très jeune du PSG pour aller en D2 à Fulham, qui a ensuite fait sa carrière du côté du Celtic, qui est revenu en France. Je trouve que c'est des choix de carrière qui sont intéressants.
Il fait partie, Masengo, de tous ces joueurs qui ont beaucoup joué sous Thierry Henry pendant la crise. Donc qui se sont montrés à ce moment-là. C'est pas forcément un gage de sûreté, puisqu'évidemment les résultats étaient pas bons, mais il fait partie de tous ces joueurs très jeunes qui ont été mis sur le devant de la scène.
Choix de carrière est intéressant, je trouve.
Confirmation pour Thomas Koubek. On en a parlé déjà hier, on en a parlé avant-hier, on avait l'information depuis un moment. Mais il y avait un non-dit autour de la destination de Thomas Koubek. C'est bel et bien à Augsbourg qui va s'engager, le 15e de Bundesliga la saison dernière. 4 ans de contrat et environ 7 millions d'euros dans la poche des dirigeants rennais. Et donc pour le remplacer, Edouard Mendy qui arrive, le gardien du stade de Reims, et qui lui a été acheté 4 millions d'euros par les
Rennais. C'est un super deal parce qu'il était à 6-7 millions sur Transfermarkt et de surcroît, effectivement...
Mais c'était quoi sa note sur FIFA aussi?
Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y avait quand même pas mal de clubs qui le convoitaient. On parle toujours d'inflation de dingue. Et souvent, les
qui
Allemands.
Qui convoitait qui?
Je vais t'expliquer. C'est un
bonne
site allemand. C'est un site allemand qui, justement, souvent. Minimise, c'est-à-dire quand il te dit 450 000, il en vaut 600 à l'époque en 2008.
Tu valais plus.
Et là pour le coup,
je valais 450 000 sur Transfermarkt.
Ouais, mais
Der Zakarian, il y a un mois et demi qu'il le veut, Mendy.
C'était pas ma valeur réelle.
Je veux dire, ça c'est correctement bien fait. Koubek, lui, pour
échange. Ah, mais tu parlais de Mendy, je pensais que tu parlais de Koubek.
Non.
Koubek, il n'était pas réclamé
4 au lieu de 6, un petit peu moins.
On en a parlé à Porto au début de l'été. Enfin,
on est sûr, c'est un très bon gardien.
Je pense que c'est au moins aussi bon que Koubek, et moins cher, du coup.
Ah oui, parce qu'ils ont vendu plus cher, ils ont fait une petite plus-value.
On parle des jeunes et des jeunes pépites.
Au-delà de l'oseille, permettez juste au-delà de l'oseille, c'est vrai que c'est important.
Aujourd'hui, c'est que ça, malheureusement.
Oui, non, bien sûr. Mais Koubek, ce que je trouve dommage, c'était un mec qui avait créé un vrai lien avec les supporters rennais.
Il était déçu de partir.
En courant le soir de la Coupe de France.
Je trouve qu'il avait une vraie personnalité, qui, lui, était devenu attachant. Et je trouve qu'un club a besoin de figures un petit peu attachantes comme ça. Non, mais je suis pas en train de dire que c'était un crack. Ouais. Il ne fait pas la grimace. Je suis pas aveugle. Je vois bien que c'était pas un cador. Je parle juste de ce lien.
Je vois ce que tu veux dire.
Je pense que les supporters rennais l'aimaient beaucoup. Club. Et que lui aimait bien là où il était. et que t'es dans des clubs, t'as des figures comme ça, et Koubek, moi je trouvais très sympa sur le terrain. Après, c'était pas un crack. Maintenant, effectivement,
c'est insuffisant. Ou alors tu le fais jouer le jeudi uniquement.
Si aujourd'hui quoi, tu le vends 8, tu récupères un autre gardien pour 4 et que celui que tu prends est bon.
On parlait des jeunes, okay, et ça c'est important parce qu'on a Momo au 32-16 qui veut rebondir sur ce que tu vas nous dire par rapport à Moïse Kean. Si vous étiez avec nous il y a 10 minutes, on a commencé un petit peu à teaser là-dessus.
Pas mal de mouvements à l'étranger aujourd'hui. Et Moïse Kean, évidemment, vous en avez déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Hein, je vous ai entendu. 50 contrats à Everton. On en a parlé également dans l'émission précédente avec Kevin. 30 millions d'euros, 10 millions de bonus. Ça, ce sont les chiffres de Sky Italia. En tout cas, le transfert annoncé par le compte Twitter d'Everton. Donc, ça va se faire. Moïse Kean, 19 ans. Grand espoir du foot italien. Grand espoir de la Juve. Ce que tu disais tout à l'heure, Daniel. 17 matchs, 7 buts l'année dernière. Surtout une période très concentré, où il a beaucoup marqué et où il s'est beaucoup montré. Moïse Kean qui donc va à Everton et quitte la Juve.
On va écouter Momo au 32-16 et je vous dis aussi dans le même temps Ying Yang Love qui nous dit au hashtag RMC Live, Moïse Kean part avec une clause de rachat. Voilà, on va pouvoir débattre avec ça. Bonsoir Momo.
Ciao, bonsoir.
Salut.
Bonsoir à tous. Je vous appelle par rapport à Moïse Kean. En fait, le truc c'est qu'il y en a qui s'indignent, ne comprennent pas pourquoi. Mais en fait, faut pas oublier l'année comment ça s'est passé sa renégociation de contrat. Il a failli faire une Rabiot à la Juve. Il a ses agents qui ont mis la pression à Paratici, le directeur sportif de la Juve, pour pouvoir signer, imposer des conditions, un salaire, surtout un gros salaire. Donc eux, ils l'ont pas oublié. Et derrière, ils lui mettent la pression comme ça. Après, derrière, la Juve, ils placent toujours leurs joueurs un peu partout. Ils les récupèrent comme ils veulent. Et à mon avis, il doit y avoir une clause. Bah, j'ai entendu, vous l'avez dit. Je suis sûr qu'il y a une clause pour le récupérer, pour être prioritaire sur le rachat. Après, aujourd'hui, Kean, faut pas rêver. Hein. Par rapport à tous les joueurs qui sont dans l'effectif de la Juve, il a pas une place de titulaire qui est assurée.
Non, et comme on est en train de rechercher
des attaquants, à mon avis, ils vont le remplacer facilement. Hein.
Après, si effectivement il s'est passé quelque chose au niveau de la négociation, à la Juve ils aiment pas trop ce genre de choses-là. Ils lui ont dit, écoute, si tu nous fais des histoires, on te transfère. Ça, effectivement, s'il y a eu quelque chose de ce genre-là, je peux comprendre. Ouais.
Enfin, sa valeur intrinsèque elle est forte. Adrien Rabiot, pour le coup, arrive à la Juve.
Ils vont prendre plein de joueurs forts aussi. Ils ont un gros effectif. Bon, après, si à côté ils se séparent également de Dybala et que Sarri fait tout pour remettre Higuain dans l'équipe, là, c'est sûr que je comprendrai un petit peu moins.
Ouais, c'est sûr, ça ce serait dommage. Mais après, pour Moïse Kean, en soi, de partir à Everton en première ligue,
pour lui, c'est plutôt pas mal. Everton, c'est plutôt bien.
On parlait des choix de carrière qui sont cohérents. C'est vrai que pour lui, aller à Everton, je trouve que c'est un choix de carrière qui, en effet, peut s'avérer payant.
Merci messieurs. Marseille-Naples ne servait à rien pour Daniel Riolo ce soir. Bah, c'est tant mieux. Demain, il pourra débriefer un sublime camp Lorient. Et on parlera évidemment du mercato anglais. Merci Angie, merci
pourquoi
Kevin. Demain, Ludo Aubragnac et vous, Daniel, au casting. Pourquoi ? Parce qu'on sera juste derrière ce match-là, notamment. Mais on parlera plein d'autres choses.
On sera tous les mêmes là.
Non, mais parfois j'oublie. Je te vois, Daniel. Je te vous vois.
Non, mais tu peux me dire tu.
Toi et les auditeurs, je vous vois. Bonne soirée à tous, les amis. Sur RMC, bien sûr.
RMC, l'afterfoot.